Le débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir, bienvenue à l'écoute du débat sur RFI. Martin Schulz sera le candidat du Parti social-démocrate allemand pour les élections législatives de 2017 face à Angela Merkel. Son parti, ce parti, le SPD, après avoir été un modèle pour l'Europe, a perdu au fil du temps une grande partie de son influence. Il est aujourd'hui devenu un simple allié de la coalition gouvernementale qui soutient Angela Merkel. Alors, l'arrivée de Martin Schulz peut-il menacer la chancelière d'abord et puis redonner des couleurs à son parti ? En Allemagne, quel avenir pour les sociaux-démocrates? On va en parler avec les deux invités de ce soir. Je vous les présente tout de suite. Je commence avec vous, Hans Stark. Vous êtes professeur de civilisation allemande à l'université Paris-Sorbonne et vous dirigez le CERFA à l'IFRI. Alors, je précise que le CERFA, c'est le Centre d'études des relations franco-allemandes et l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et puis...
Bravo.
Oui, j'ai fait des recherches. Parmi vos nombreux livres, le dernier dont vous êtes co-auteur a pour titre L'Allemagne entre rayonnement et retenue. C'est sorti l'année dernière, en 2016, donc aux éditions Septentrion. Bonsoir, Hans Stark.
Bonsoir.
Guillaume Duval, lui, rédacteur en chef du magazine Alternative Économique. Vous avez aussi beaucoup écrit sur l'Allemagne, Guillaume Duval, mais votre dernier ouvrage, lui, consacré à la France, s'intitule « La France ne sera plus jamais une grande puissance, tant mieux ». C'est aux éditions de La Découverte. Bonsoir, Guillaume Duval.
Bonsoir.
Et merci à tous les deux. C'est finalement Martin Schulz qui va affronter, on le sait, au nom des sociaux-démocrates, Angela Merkel pour le poste de chef du gouvernement allemand. Comment on pourrait présenter Martin Schulz, Guillaume Duval, à ceux qui ne le connaissent pas ?
Martin Schulz, je pense que c'est un social-démocrate extrêmement classique, qui vient de l'ouest de l'Allemagne, de la Rhénanie. Qui a fait une partie essentielle de sa carrière, une des spécificités de l'Allemagne par rapport à la France, c'est qu'on prend l'Europe relativement au sérieux, le Parlement européen relativement au sérieux, donc qui a fait l'essentiel de sa carrière politique au Parlement européen, et dans la dernière période, donc à la présidence du Parlement européen. Alors je ne pense pas qu'il y ait de différence politique fondamentale avec Sigmar Gabriel, donc c'est quelqu'un qui a plutôt suivi Schröder, enfin qui a été dans la ligne majoritaire du Parti social-démocrate, mais enfin, ça lui donne quand même une stature internationale que n'avait pas du tout Sigmar Gabriel, qui était resté très, très allemand, un peu provincial, je dirais, en termes en tout cas de stature, et donc le fait d'avoir cette assise internationale, en plus Martin Schulz est parfaitement francophone, il parle beaucoup de langues étrangères, ça lui donne effectivement une capacité à concurrencer Madame Merkel qui est sans doute plus importante que celle que pouvait avoir Sigmar Gabriel.
Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce portrait, Hans Stark?
Oui, il a une vraie légitimité, il est en effet dans le courant majoritaire de la social-démocratie très classique, très réformateur, quelqu'un qui s'entend bien avec Jean-Claude Juncker aussi, donc Jean-Claude Juncker étant à droite, c'est vraiment l'exemple même de quelqu'un qui peut porter une grande coalition entre la gauche et la droite, ce qui veut dire que Schulz va sans doute se préparer à rentrer, non pas là maintenant tout de suite, mais dans le gouvernement qui sera mis en route après les élections de septembre 2017.
On le dit très populaire en Allemagne.
Oh, il faut pas exagérer, très connu d'abord. Hein, ça c'est déjà un atout pour un social-démocrate, très connu pour avoir été président du Parlement européen, pour avoir siégé au Parlement européen depuis une vingtaine d'années, pour avoir un carnet d'adresses très important à l'échelle internationale, pour avoir aussi un côté très jovial qui passe bien. C'est un élu local à la base, il vient de la région d'Aix-la-Chapelle, donc il n'a jamais occupé le moindre portefeuille ministériel en Allemagne. Il a fait, comme a dit Guillaume Duval, toute sa carrière en réalité en Europe. Et de là, on le connaît.
Alors, la seconde question que je me suis posée en préparant cet entretien, c'était de savoir pourquoi la social-démocratie allemande, qui a été un modèle, on va dire, pour l'Europe, s'est affaiblie autant depuis l'arrivée d'Angela Merkel au pouvoir en Allemagne, Guillaume Duval.
Oh, ça date pas tout à fait de l'arrivée de Madame Merkel. Donc la social-démocratie allemande, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec le Parti socialiste français. Donc c'est un vrai parti ouvrier ou qui a su jusque-là rassembler les couches populaires, qui n'a jamais eu l'équivalent de la concurrence qu'a pu avoir sur ce terrain le Parti socialiste français avec le Parti communiste français. Donc c'est un vrai parti populaire qui a beaucoup souffert de difficultés industrielles, en particulier qu'a connu la Rhénanie, la fermeture des mines, etc., etc. Et c'est un parti qui ne s'est jamais remis, surtout sur la dernière période, des réformes Schröder. C'est-à-dire que c'est un parti qui a fait le choix avec Schröder d'un tournant social-libéral assez brutal. On compare souvent Schröder et Tony Blair au Royaume-Uni, mais en fait, la différence, c'est que Schröder a été beaucoup plus conséquent que Tony Blair dans son orientation social-libérale, en réalité. Hein. Tony Blair, c'est quelqu'un qui, quand il était au pouvoir au Royaume-Uni, a beaucoup augmenté les emplois et les dépenses publiques dans la santé, dans l'éducation, etc., etc. Il n'a pas fait du tout ce qu'il disait vouloir faire et ce qu'il vendait, en particulier sur le continent. La différence, c'est que Schröder, lui, il a pris au sérieux ce que disait Tony Blair et il l'a fait pour de vrai, mais ça l'a complètement coupé d'une partie significative de la base social-démocrate, de la base ouvrière, de la base syndicale. Ça a déclenché une scission. Donc, Monsieur Lafontaine, qui était l'ancien président du parti, qui était l'ancien ministre de l'économie de Schröder au départ, est parti créer un autre parti avec les ex-communistes. Donc, aujourd'hui, le SPD pèse deux fois moins en termes d'adhérents et en termes de voix qu'à la fin des années 90. C'est une catastrophe.
Mais en même temps,
partager ce diagnostic en soi.
Oui, partiellement. Le SPD avait un nombre bien supérieur de membres, un nombre de membres bien supérieur à celui des chrétiens-démocrates. Donc là, entre guillemets, la chute des membres, s'explique aussi par cela, s'explique aussi par l'orientation de la société. On n'est plus comme autrefois social-démocrate de père en fils et pour toute une vie. Aujourd'hui, il y a une volatilité beaucoup plus importante des électeurs. Premièrement, il y a aussi tout simplement des orientations sociétales de l'individu qui font que le lien avec un parti est beaucoup moins prononcé. Donc cette chute du nombre des membres, pour moi, n'est pas la conséquence de l'ouverture vers un social-libéralisme de Schröder. Et d'ailleurs, Schröder, bon, il a perdu les élections, évidemment, en 2005, à la suite de l'introduction de ces lois sociales, mais le SPD, à l'époque, était à 1% seulement de la CDU. Donc c'était pas une bérésina pour la social-démocratie allemande, loin de là. Alors j'explique la faiblesse du SPD aujourd'hui, parce que ça c'était votre question.
Absolument.
Par le fait que la gauche allemande, elle est divisée. Enfin d'abord parce que la gauche en Europe va mal, ça c'est quand même un premier aspect. Donc je veux dire, la faiblesse du SPD s'inscrit aussi dans un contexte européen. Ensuite, à l'échelle de l'Allemagne, nous avons trois partis de gauche qui se partagent finalement un spectre de 45% de l'électorat, à savoir Die Linke, l'équivalent donc du Front de gauche français, les Verts, il ne faut pas oublier les Verts, et puis le SPD. Et vous ajoutez à cela ce qui explique d'ailleurs un peu la fronde aujourd'hui contre Angela Merkel au sein de son propre parti. Le fait que Angela Merkel est en train de se recentrer vers le centre gauche depuis pas mal d'années, en particulier avec sa politique des réfugiés. Et aujourd'hui, ma foi, il y a des électeurs du SPD qui trouvent Madame Merkel très bien et qui se disent, pourquoi pas voter pour elle, puisque sur le plan social, sur le plan des mœurs, sur le plan des réfugiés, sur le plan, sur un tas de choses, finalement, il n'y a pas tant de différence que ça entre le SPD et le CDU.
Merkel qui appliquerait une politique sociale qui est généralement dévolue au SPD, vous êtes d'accord, Guillaume Duval?
Là, ce qui fait le succès et la durée de Madame Merkel, c'est très clairement que c'est elle, c'est sous sa tutelle, en tout cas en tant que chancelière, qu'elle a commencé à réparer les dégâts qu'avait causé Gerhard Schröder au tissu social allemand, à la protection sociale allemande. Alors c'est en partie sous la pression d'ailleurs du SPD, en coalition avec le SPD qu'elle a mis en place un SMIC, qu'ils ont réformé la réforme des retraites que le SPD avait portée précédemment et qui portait l'âge de la retraite à 67 ans. Donc aujourd'hui, beaucoup d'Allemands peuvent partir de nouveau à 63 ans en retraite, enfin
et
vont pouvoir partir.
Avec une augmentation des retraites aussi.
Avec une augmentation des retraites. Donc tout ça, c'est elle qui l'a fait. Elle a réparé les dégâts de Schröder. Et l'autre chose qu'il y a, qui explique l'affaiblissement du SPD, c'est aussi l'émergence de l'AFD, donc de la partie d'extrême droite. Contrairement à ce qu'on pense sans doute spontanément en France, c'est pas un parti qui a uniquement pris des voix à la démocratie chrétienne. Quand on regarde les chiffres, j'ai pas vu des stats de flux, mais la baisse du SPD est quasiment équivalente à la baisse démocratie chrétienne.
Vaste communicant, pratiquement.
Par rapport à la montée de l'AFD. Donc, je pense qu'il y a un électorat populaire qui est sensible à ces thèmes-là et qui fuit au moins autant, à peu près autant la CDU que
le SPD. Sur la montée de l'extrême droite, en
France c'est pas tout à fait ça, heureusement d'ailleurs. D'abord, le Front National en France aussi prend des électeurs à gauche, faut pas oublier ça. Donc, là aussi, vous avez un contexte européen. Donc, l'AFD prend en effet aussi des électeurs au SPD, mais on sait, là, les chiffres sont assez parlants. L'essentiel des électeurs, pour presque la moitié, les électeurs de l'AFD, ce sont des abstentionnistes. Et pour le reste, ils prélèvent, entre guillemets, des électeurs, aussi bien sur les chrétiens démocrates que sur des Linke, donc le Front de gauche allemand, et puis aussi un peu sur le SPD. Donc c'est pas le SPD qui saigne, entre guillemets, plus que la CDU, même s'il est vrai que le SPD aussi a perdu les électeurs en faveur de ce parti d'AFD.
Alors Martin Schulz plutôt que Sigmar Gabriel, qui était précédemment pressenti pour affronter Madame Merkel, est-ce que ça peut remotiver l'électorat?
Je pense que c'est pour ça qu'il a été nommé. D'abord parce que il y a aussi un autre aspect quand on parle de la faiblesse du SPD, c'est une faiblesse, certes, qui existe, qui est évidente, mais malgré tout, il faut la relativiser. Elle existe sur le plan national, où le SPD aujourd'hui se trouve dans les sondages autour de 21-22%, ce qui est très mauvais pour un parti qui se veut un parti de rassemblement. À l'échelle régionale, en revanche, le SPD est devant la CDU. Aujourd'hui, si on prend les 16 Länder, il y a une majorité de gauche à l'intérieur donc de la chambre régionale de Bundesrat. Donc, ça veut dire que le SPD n'est pas si mal en pointe que ça. Il dirige un certain nombre de Länder, dont le grand Land de la Rhénanie du Nord-Westphalie. Or, il y aura les élections au mois de mai, ils craignent dans ce Land, en particulier avec cette affaire du terrorisme qui était de l'attentat de Berlin, avec ce monsieur Amri qui avait séjourné en Rhénanie du Nord-Westphalie, où on n'a pas suffisamment suivi son dossier. Donc aujourd'hui, le SPD craint de perdre ce fief, qui est le fief, vraiment le fief du SPD, et je pense que là aussi, la nomination de Schulz, c'est explique par cela. Donc, l'objectif, bon, évidemment, on s'affiche, on veut gagner les élections, c'est évident, on rentre comme ça en campagne, tout le monde le fait. Mais, soyons réalistes, il s'agit pas, le SPD sait qu'il va pas l'emporter, mais il faut sortir de cette impasse des 21-22% pour remonter un peu la pente et sauvegarder, si possible, la Rhénanie-Nord-Westphalie.
Faire une petite cure d'opposition, peut-être. Avant d'aborder ce point précis, je voudrais savoir, Guillaume Duval, si vous pensez pas que Martin Schulz, finalement président du Parlement européen, vous l'avez rappelé tout à l'heure, vu comme un symbole, finalement, de l'establishment européen, ça peut poser problème ou pas pour l'électorat allemand?
Pas forcément, parce que je pense que l'électorat allemand a de plus en plus conscience que la politique de Monsieur Schäuble et de Madame Merkel à l'échelle européenne est une catastrophe pour l'Allemagne. Enfin, elle contribue à l'isoler et à mettre en danger la construction européenne. Je pense que il faut pas sous-estimer l'impact qu'a pu avoir la victoire de Trump en Allemagne, qui est très supérieur, je pense, à l'impact qu'a pu avoir cette victoire en France. C'est-à-dire que l'Allemagne, c'est un pays qui est très américanophile depuis tout l'après-guerre, qui a jusqu'ici suivi toujours très étroitement les présidents américains. Donc Gerhard Schröder avait déjà fait un écart avec l'Irak en 2003, c'était vraiment quelque chose d'inédit. Mais là, se retrouver de front opposé au gouvernement américain, c'est une situation tout à fait nouvelle pour le gouvernement allemand. Et je pense que là, les gens ont conscience qu'il faut serrer les rangs en Europe. Et sur ce plan-là, je pense que la la candidature de Schulz est un signal qui est envoyé à toute l'Europe, et c'est un signal sous ce plan-là très positif. Je pense que s'il est au gouvernement allemand après le mois de septembre, ça donnera des opportunités supplémentaires pour que la France et l'Allemagne en particulier puissent refonder l'Europe. Et donc sous cet angle-là, je ne pense pas que ce soit un inconvénient ni pour les Allemands et l'opinion publique allemande, ni pour nous d'ailleurs.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
On ne peut pas nier, je réagis à ce que vient de dire Guillaume Duval, on ne peut pas nier le fait que la politique d'austérité, parce qu'appelons un chat, de l'Allemagne a accentué les divisions entre le Nord et le Sud de l'Union européenne, et donc a amplifié la crise de légitimité peut-être même de l'Union européenne de ce point de vue-là. Mais de là à dire que la politique de Merkel et Schäuble menace la construction européenne, je pense que malgré tout c'est excessif. L'Allemagne est aussi en même temps, c'est peut-être une contradiction, je dirais un barrage contre le processus de déconstruction de l'Union européenne, notamment dans un contexte où beaucoup de pays ont des partis eurosceptiques qui montent au cran et qui s'apprêtent peut-être parfois à prendre d'assurer l'exécutif dans certains pays. On n'ira pas aussi loin en France, évidemment, mais dans un certain nombre de pays, c'est en effet dangereux, comme ça. Donc, pour revenir à votre question sur Schulz, ce n'est pas un inconvénient pour lui, ce n'est pas un stigmate d'avoir été, pour l'opinion publique allemande, d'avoir été à Bruxelles. Encore une fois, il est accepté et reconnu comme quelqu'un qui a su gérer à l'échelle européenne des négociations avec un nombre important de dirigeants étrangers. Donc c'est un homme qui a un carnet d'adresses, qui a une influence à l'échelle européenne, qui est à l'écoute, et tout ça évidemment joue en sa faveur.
Nouveau président du SPD, donc une cure d'opposition, est-ce que ça redonnerait du crédit à ce parti selon vous, Guillaume Duval ?
Je pense que ses dirigeants le souhaiteraient sans doute. Le problème, c'est que ça paraît aujourd'hui assez improbable, dans la mesure où il n'y a pas d'alternative réellement existante à la grande coalition.
Elle va se poursuivre.
Donc aujourd'hui, dans les configurations que donnent les sondages, et il n'y a pas d'autre solution à deux partis. Il n'y a même pas d'autre solution à trois partis qui avait pu être envisagée à un certain moment, c'est-à-dire qu'il était question, ça n'avait pas beaucoup de réalité politique, mais il était question éventuellement que le SPD s'allie à Die Linke et aux Verts.
Ça n'est
mais
plus possible.
Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Donc, à moins que la CDU, mais ça paraît aujourd'hui très improbable, envisage une alliance avec l'AFD, il n'y a pas d'autre solution que de poursuivre la grande coalition, ce qui est a priori une très mauvaise chose pour le SPD parce que il s'en sort mal et il souffre dans ce contexte-là, comme d'ailleurs partout où il y a des grandes coalitions, comme en Autriche, comme ailleurs.
Nous avons actuellement au Bundestag une majorité de gauche. Elle est très courte, mais a priori, on pourrait imaginer théoriquement une gauche plurielle. Le problème qui se pose cependant dans une alliance incluant les Verts et notamment le SPD des Linke, c'est que un, sur l'héritage des lois Hartz IV, on est en désaccord entre Die Linke et le SPD, et surtout sur les grandes questions internationales, puisque Die Linke est assez eurosceptique et plutôt pro-russe, plutôt très sceptique à l'égard des États-Unis. Bon, ça aujourd'hui, je pense que c'est partagé par pas mal de monde depuis les élections de M. Trump. Mais sur le plan international, ça passe pas. Et enfin, c'est un parti résolument pacifiste qui s'oppose à la moindre intervention de la Bundeswehr, de l'armée allemande, sur les théâtres extérieurs, alors que ça, c'est l'un des points essentiels de l'héritage de M. Steinmeier, ministre des Affaires étrangères et bientôt président de la République fédérale. Cependant, ce qui pose problème pour la grande coalition, notamment pour le SPD, c'est le syndrome autrichien. Plus la grande coalition dure, plus l'extrême droite va prendre le dessus. Et on le voit avec le FPÖ autrichien, qui aujourd'hui est en train de devenir le principal parti d'Autriche, alors que l'Autriche va pas trop mal sur le plan économique. L'Allemagne va un peu mieux, mais l'Autriche va pas trop mal. Enfin, on n'est pas dans une situation de grande misère, en tout cas pour ce pays. Et malgré tout, l'extrême droite monte, parce que justement, la grande coalition est de moins en moins bien acceptée.
Alors à suivre, il va falloir attendre les élections. Elles ont lieu en quoi, en septembre, c'est ça ?
Le 24.
Le 24. Il semble que Mme Merkel soit bien placée pour poursuivre sa politique à la tête de l'Allemagne, manifestement.
Oh, maintenant, on sait
Je
plus.
Je pense qu'on ira vers ça.
On n'en dira pas plus ce soir, en tout cas. Merci à tous les deux. Hans Stark, je rappelle le nom de votre livre, L'Allemagne entre rayonnement et retenue. C'est aux éditions Septentrion. Et Guillaume Duval, rédacteur en chef du magazine Alternative économique. La France ne sera plus jamais une grande puissance, tant mieux, aux éditions de La Découverte. Merci à Claude Battista qui a réalisé cette émission. Et bonsoir à tous.